C'est Christine Cossette au microphone. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission « Croire d'hier à demain », réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la coordonnatrice de cette série d'émissions, Francine Robert. Je vous rappelle que Francine enseigne en études bibliques à l'Institut de pastoral des Dominicains. Le plaisir de la recevoir est d'autant plus grand qu'elle vient nous parler d'un sujet qui attire et fascine bon nombre de nos contemporains, et c'est celui de Jésus de Nazareth. Que l'on soit croyant ou non, ce personnage, qui a fait basculer notre histoire, disons-le franchement, pose bien des questions. Est-ce vrai tout ce qui est raconté dans la Bible? A-t-il réellement dit et fait ceci ou cela? Mais au fait, est-ce les bonnes questions à poser? N'y en aurait-il pas d'autres plus importantes, plus satisfaisantes, plus intéressantes? Est-il juste de dire que l'histoire de Jésus se présente comme un événement historique? Où en sommes-nous aujourd'hui dans la recherche du Jésus de l'histoire? C'est donc pour comprendre un peu mieux cet univers que j'accueille aujourd'hui Francine Robert. Francine, bonjour.
Bonjour, Christine.
Permettez-moi d'abord de vous poser une question que l'on entend couramment au sujet de l'existence de Jésus. Alors, comment peut-on être sûr qu'il a réellement existé?
Oui, je dirais que c'est une bonne question. Ça va être la réponse la plus courte de l'émission. Par contre, il n'y a pas d'historien sérieux aujourd'hui, quelle que soit la position religieuse de l'historien, il n'y a pas d'historien sérieux qui remet en question l'existence de quelqu'un qui a été appelé Jésus, qui a vécu en Palestine, appelons ça la Palestine, bien mm-hmm. que c'est un peu un anachronisme, donc au tournant du 1er siècle, et qui a fait parler de lui. Hein, ça, c'est un fait établi, même si on n'en trouve pas beaucoup de traces là, dans la documentation de l'époque, particulièrement la documentation romaine, mm-hmm. qui parle surtout des chrétiens. Il y a quelques traces, dont une plus intéressante peut-être, qui est chez l'historien juif Flavius Joseph, hein, qui, vers la fin du 1er siècle, mentionne Jean le Baptiste, Jésus, hein, qui a fait parler de lui, qui a eu une certaine popularité et qui a été tué par les Romains. Mais c'est tout ce qu'on peut dire si on s'en tient là, à une réponse absolument stricte sur le Jésus historique.
Mm-hmm. Il est assez remarquable, je le disais en introduction à cette émission, de voir à quel point Jésus de Nazareth, cette figure-là, attire et fascine aujourd'hui. Pourquoi, d'après vous?
Certainement pour une des raisons que vous avez mentionnées aussi en introduction, il a fait basculer l'histoire mm-hmm. et donc il est devenu incontournable, je dirais. Mais vous avez raison, il fascine. On en prend, pour exemple, la production constante de romans, de films. Le dernier en date, à ma connaissance, Mel Gibson, là, il y a 3 ans, où il y avait beaucoup de sang, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais je vous donne aussi comme exemple de fascination le dernier numéro de la revue L'Express, une revue française d'actualité. Le numéro de la fin décembre est un numéro double avec 100 pages annoncées en page titre, dossier sur les débuts du christianisme, sur Jésus, etc.
Et ça se vend?
Ben ma chère, j'ai pas pu le trouver en librairie. J'y suis retournée 4 fois. Tous les numéros étaient partis. Donc, ça se vend. Et L'Express est publié en France. Hein? Mm-hmm. Donc, ça dit bien un intérêt séculier pour cette question-là. Alors, oui, c'est un personnage fascinant, je pense, parce que la quête spirituelle est forte aussi actuellement et qu'on cherche des repères. Et Jésus de Nazareth reste une grande figure spirituelle.
Oui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est un sujet qui intéresse uniquement les croyants?
Non, justement. Oui. Je pense que la manière dont les questions sont posées déborde de beaucoup l'approche croyante. J'en veux pour exemple votre première question, a-t-il mm-hmm. existé? Mm-hmm. Mais aussi la quête spirituelle dont je parlais. Comment dire, on est à la recherche de modèles, alors il y a un intérêt d'un autre type, du genre grand initié. On cherche les grands initiés, les maîtres de sagesse.
Oui.
Alors, Jésus peut apparaître un peu comme tout ça. Dans ce sens, je pense qu'il va continuer de fasciner encore longtemps. Ce qui fait étrange pour beaucoup de croyants, c'est que ça les oblige à une certaine désappropriation du personnage. Quand on voit des films comme La dernière tentation de Jésus, oui, ou même le film de Mel Gibson, on se rend bien compte que l'Église n'a plus le monopole du discours sur Jésus. Et c'est très bien comme ça, à mon avis. Ça secoue un petit peu les images poussiéreuses qu'on peut avoir.
Oui, et oui, vous disiez dans un de vos articles, on a dédouané le personnage,
exactement,
de Jésus. Alors, il n'appartient plus uniquement aux chrétiens.
C'est ça. Et ça oblige, par ailleurs, les chrétiens à se repositionner face à ce foisonnement de romans. Moi, ce que j'aime, par exemple, évidemment, je suis croyante, mais j'aime les bons romans et les bons films sur Jésus ou sur les évangiles. Et pourquoi j'aime ça? Parce que ça nourrit l'incarnation. Oui. Vous voyez, pendant des siècles, la réponse à qui est Jésus, c'était vrai Dieu, vrai homme, avec un fort poids mis du côté vrai Dieu. Et ça reste encore, je dirais, dans nos mentalités. Alors que l'incarnation, c'est quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui. Et quand je dis « nous », ça inclut les croyants. Et les films, je trouve, à condition de ne pas leur demander d'être une information historique sérieuse, mm-hmm, scientifique, les films et les romans nourrissent l'incarnation, aident à mettre de la chair, je dirais, sur le personnage Jésus. Alors moi, j'aime ça. Il faut juste ne jamais oublier qu'un roman, c'est un roman, puis un film, c'est un film.
Oui.
C'est pas une catéchèse, puis c'est pas un cours de science.
Oui. Puis il reste quand même que le christianisme, le cœur du christianisme, ou ce qui attire dans le christianisme, c'est justement l'humanité de Jésus. Et donc, ces films-là...
Vous avez raison. C'est vrai aujourd'hui, ce que vous dites. Mm-hmm. Je pense que pendant des siècles, c'est autre chose qui attirait. C'était la proposition du salut, mm-hmm, le ciel, mm-hmm, une proximité avec le monde de Dieu. Vous voyez, on se lancerait dans autre chose. Mais vous avez raison. Ce qui fascine aujourd'hui, c'est l'humanité chez Jésus.
Oui.
Et là-dessus, bien, je crois que c'est le devoir de la recherche scientifique aussi de répondre à ce besoin-là.
Oui, alors parlons donc de cette recherche scientifique. Est-ce que l'exégèse biblique, c'est votre spécialité quand même, mm-hmm, a apporté une contribution significative à cette question-là?
Oui, sans aucun doute. Elle apporte une contribution de l'ordre de l'information et une contribution aussi qui va donner, je dirais, plus de poids à l'humanité de Jésus. Mais je dois dire tout de suite, Christine, que dans les cours, dans les conférences, dans les rencontres en paroisse, on voit bien que une fois qu'on a parlé des évangiles et de comment Marc présente Jésus, de comment Luc présente Jésus et Jean et Matthieu, les gens aiment ça, vous savez.
Oui.
Mais ils ont toujours l'impression que c'est un hors-d'œuvre avant d'arriver au vrai Jésus.
C'est
le Jésus historique.
Oui, parce qu'au fond, les vraies questions que les gens se posent, c'est qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait exactement.
C'est vrai. Mm-hmm. Heureusement pour nous, ils ne se posent pas uniquement ces questions-là, mm-hmm, mais il y a la question de... Oui, et puis Jésus, est-ce que c'est vrai qu'il est né à Bethléem? Vous voyez, oui, ce genre de choses-là, et la recherche laisse les gens sur leur appétit. Si on voulait satisfaire les désirs des gens au niveau de la recherche historique, on devrait vivre au 19e siècle.
C'est-à-dire?
Ben oui, parce qu'au fond, on a des désirs qui ressemblent beaucoup à ce qu'a été la recherche sur le Jésus de l'histoire au 19e siècle.
Alors, est-ce que vous êtes en train de nous parler de ces trois grandes quêtes,
oui,
qui ont commencé au 19e siècle?
Oui, donc, tout à fait.
Jusqu'au 20e
jusqu'à
siècle.
Jusqu'à nous, et qui continue au 21e et qui est loin d'être terminée. Oui, je dirais que la première grande étape scientifique, là on parle de la recherche exégétique, sur la question du Jésus historique, ça a commencé en 1878, si on veut une date, avec le premier ouvrage qui a été publié. Mais parlons du 19e siècle.
En fait, si on veut bien comprendre, là, ces trois grandes quêtes-là, c'est pour essayer de démêler, si je comprends bien, ce qui relève de l'histoire, de ce qui relève de la foi.
Hein? Oui, c'est ça.
On essaie de voir qu'est-ce qui est réellement arrivé. On a essayé, au tout,
oui,
début, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui est réellement arrivé et qu'est-ce qui a été ajouté par la suite.
Exactement.
Les trois quêtes ont été amorcées pour répondre à ce problème-là. Là.
C'est vrai. Et on pourrait dire, en fait, trois étapes d'une même quête,
okay,
qui est une quête scientifique. Vous savez, à partir du moment où, bon, la Renaissance, tout ça, ensuite le classicisme, la lecture est devenue ouverte. Quand les gens se sont mis à lire de près les évangiles et qu'ils ont vu qu'il y avait des différences, ils ont cessé de les considérer comme des biographies. de Jésus. Okay. Vous voyez? Alors, on peut dire que dès qu'il y a eu une publication fin du 18e siècle qui a dit « Les évangiles, ce sont des témoignages de croyants. » Et pour savoir qui était Jésus, on a besoin d'aller derrière les évangiles. Ça, c'est la première étape d'une grande quête qui continue encore aujourd'hui. Oui. Retrouver le Jésus historique, comme vous disiez.
Okay.
Alors, on est au 19e siècle. C'est curieux, vous allez voir, des fois, j'ai l'impression qu'on parle de nous. On est en plein romantisme. Hein? Mm-hmm. Moi, je me souviens de mes études en littérature, Chateaubriand, bon, tout ça. On cherche comment Jésus se sentait. Qu'est-ce qu'il pensait? Mm-hmm. Comment il vivait les choses?
Mm-hmm. On voudrait bien le savoir.
Ben oui, on veut encore le savoir. Mm-hmm. Son évolution psychologique. Est-ce qu'il a vu venir le fait qu'il serait tué? Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il en a pensé? Voyez, ça, ce sont des questions typiques du 19e siècle. Et on considère que les évangiles peuvent être une bonne source d'information pour reconstruire derrière le texte le Jésus de l'histoire. Alors, c'est la grande époque de la publication des vies de Jésus.
Oui.
Et il s'en est publié beaucoup, des biographies de Jésus. C'est une période, je dois dire, où l'intérêt pour l'histoire en général était en grande progression. C'était une grande mode.
De cette première quête-là, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Ce qui est typique de cette quête-là, c'est le rationalisme et ça remet en question tout le merveilleux. Donc, en partant, on décide qu'il n'y a pas eu vraiment de miracle, bon, tout ça. On élague, vous voyez, on tend à dégager le merveilleux des évangiles. On jette tout ça par-dessus bord.
Oui.
Alors, vous doutez bien que ça a provoqué toutes sortes de réactions.
Oui, j'imagine, surtout du côté de l'institution.
Voilà, exactement.
Même.
Oui, parce que quand je dis « on », les gens qui faisaient ça, pour la grande majorité, ce sont des croyants.
Oui.
Et c'est la théologie libérale qui croit que la raison et l'intelligence peuvent être mis au service de la foi, vous voyez? Alors, je dirais que la manière dont on posait les questions sur la vie de Jésus, elle est encore présente aujourd'hui, l'intérêt pour la psychologie. Ce qui est encore présent aujourd'hui, c'est chez une bonne partie des gens, peut-être en bonne partie aussi non-croyants, le rejet de tout ce qui est merveilleux et miracle, alors que, par contre, on sait bien maintenant par la socio-histoire, qui s'intéresse à tout autre chose que la Bible, des guérisseurs, particulièrement dans les sociétés agraires et dominées, entre autres, comme l'était le peuple juif à l'époque par les Romains. Donc, ça existe et on n'aborde plus scientifiquement les miracles de la même façon, mais ça reste. Une autre chose qui reste aujourd'hui, et là c'est chez les croyants, c'est une méfiance semblable à celle de l'institution au 19e siècle. C'est-à-dire, si on aborde le personnage de Jésus avec la rationalité, si on se met à faire des enquêtes historiques pour vérifier, c'est dangereux, ça va sortir le mystère. Et donc, il y a une certaine méfiance chez beaucoup de chrétiens. Quand je dis chrétiens, c'est au sens large, protestants et catholiques. Une certaine méfiance face à la recherche scientifique lorsqu'elle touche au Jésus de l'histoire. Donc, vous voyez que le 19e siècle, à la fois dans ses découvertes, ses avancées, ses intérêts, mais aussi les résistances qu'il a provoquées, ça vit encore en nous, je dirais, dans l'Église aujourd'hui.
Alors, Francine, vous avez choisi de nous faire entendre une pièce de l'opéra rock Jesus Christ Superstar.
Et pas une seule, Christine, toute l'émission. Il va emprunter à cet opéra rock qui a été produit dans les années 70. C'est un bel exemple, je trouve, de ce qu'apportent aussi les romans. C'est-à-dire que ces auteurs-là, ils représentent l'incarnation sans le savoir, sans le vouloir, par leurs intuitions, par leurs choix musicaux. Bon, ça déménage, ça dérange, c'est vrai, mais ça nourrit beaucoup, je trouve. Alors, la pièce que j'aimerais vous faire entendre maintenant, c'est un beau cas où quelqu'un cherche à récupérer Jésus, je dirais, un peu comme au 19e siècle, on se fait le Jésus qu'on veut. C'est Simon le Zélote qui essaie de convaincre Jésus de continuer comme ça, mais avec son succès, il pourrait peut-être aussi nourrir une petite insurrection politique contre l'occupant romain. Do whatever.
Russia played at Rome. You will rise to a greater power. We will win ourselves a home. You will get the power and the glory forever and ever and ever. Oh, you get the power and the glory forever and ever and ever.
Donc, Francine, c'est la première quête.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on en a conclu de cette première quête-là?
Je dirais ce que Albert Schweitzer en a retenu.
Au tout début du 20e siècle,
en 1906, ce grand Albert Schweitzer, qui est devenu médecin en Afrique, qui était aussi un exégète, il a fait un bilan du 19e siècle sur cette question-là et il a dit deux choses qui sont encore vraies. Messieurs, dames, lorsque vous écrivez une vie de Jésus, c'est de vous que vous parlez, c'est du Jésus que vous voulez. Vous aimez les sages, vous nous écrivez la vie d'un Jésus qui est un maître de sagesse, et ainsi de suite. Il a dit, finalement, Jésus, on projette toujours sur lui ce qu'on veut. Arrêtons ça. Deuxième chose qu'il a dite, qui est encore vraie, même si on le nuance autrement, c'est le centre de la vie de Jésus et de sa mission, c'était la prédication du règne de Dieu.
Oui.
Et Jésus attendait le règne de Dieu pour très bientôt. Et cela, ça fait pas du tout partie de notre culture. Et donc, d'une certaine manière, Jésus est étranger beaucoup plus qu'on le pense. Alors, arrêtez de vouloir le récupérer.
Ah oui.
Je le dis un peu dans mes mots,
oui, oui.
Mais ce bilan-là a été pris tellement au sérieux, Christine, et il a fait tellement choc chez les exégètes que la recherche systématique du Jésus historique a arrêté à ce moment-là. Et on s'est tourné vers la recherche sur les évangiles.
Ah bon?
Ouais. Et ça a été la grande période. En 50 ans, Rudolf Bultmann, dont vous avez entendu parler dans vos cours, comme moi, ça a été 50 ans d'une grande, grande fécondité sur l'analyse des évangiles. Et maintenant, c'est acquis comme une certitude sur le fait que les évangiles sont bien des témoignages croyants écrits à la lumière de la foi en la résurrection. Et donc, ils ne sont pas des biographies de Jésus. Et essayons d'en dégager la richesse de signification. Alors, nous, on a été formés, non pas dans la première moitié du 20e siècle, mais on a été formés, vous et moi, grâce à la fécondité de cette période-là qui a replacé autrement, je dirais, ce qu'on appelle la vérité des évangiles.
Oui. Alors, donc, on s'est rendu compte qu'on avait une interprétation des événements historiques.
Oui. Hein,
parfois un embellissement de ces événements historiques. Donc, à la fois l'histoire et la théologie.
Oui, j'achète tout de votre phrase sauf un embellissement.
Oui.
Mais ça reflète jusqu'à un certain point. Si on dit aux gens que les évangiles sont subjectifs, on va tout de suite craindre une subjectivité qui va embellir les choses, c'est vrai.
Oui.
Je dis pas que c'est exactement ce que vous pensez.
Non, non.
C'est vrai que donc les évangiles adoptent un point de vue et ils développent les significations.
Oui.
Vous voyez? Et nous, on a un restant de culture positiviste en nous. Mm-hmm. N'est vrai que ce qui est arrivé.
Oui.
Alors, n'est vrai que le texte qui dit ce qui est arrivé. On est mieux de jamais lire ni les éditoriaux, ni la plupart des articles de journaux.
Mm-hmm.
Parce qu'il
faut évidemment
toujours adopter un point de vue.
Oui.
Alors, la grande différence, c'est que les évangiles le font ouvertement, adopter un point de vue, et ils le disent.
Oui.
Donc, ça signifie pas tellement embellir quand on regarde les évangiles apocryphes qui ont été écrits dans les siècles après. Là, on en a beaucoup de clamages miraculeux.
Mais je veux revenir à ce mot-là, embellissement. Je l'utilisais peut-être plus pour les miracles de Jésus.
Mm-hmm.
Hein, on dit ça parfois que les miracles ont été embellis.
Oui.
On en a mis un peu plus.
On le dit parce que c'est avec les miracles qu'on a des problèmes.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Lorsqu'on regarde des récits de miracles, vous savez, Jésus n'était pas le seul guérisseur de son temps. Bon, dire cela, ça ne veut pas dire qu'il y avait des guérisseurs à tous les coins de rue, mais ça existait en monde juif et en monde gréco-romain. Et on a des récits de guérisseurs en monde juif et en monde gréco-romain. Il y en a des pas mal plus embellis, vous voyez.
Oui,
Et les évangiles sont d'une assez remarquable sobriété lorsqu'on compare à d'autres littératures.
C'est très intéressant.
Oui, tout à fait. Et là encore, dans la manière de raconter, et que ce soit les miracles, les discours, les paraboles, la passion, les évangélistes cherchent toujours à faire une catéchèse. Les évangiles sont écrits pour des chrétiens, en passant.
Mm-hmm.
Donc, ils n'ont pas besoin d'en ajouter. Hein, vous voyez, s'il y a un évangile qui est comment dire, où à chaque phrase on voit affleurer Dieu à travers Jésus, c'est bien l'évangile de Jean.
Oui.
C'est celui qui raconte le moins de récits de miracles. Et qui, quand il les raconte, va raconter aussi beaucoup plus les problèmes que ça a suscité, les débats que ça a soulevé. Donc, c'est le problème du 20e siècle avec les miracles que nous avons n'est pas un problème que les évangélistes avaient, ni les gens de l'époque des évangiles.
Non.
Voilà.
Alors, on a dit, Francine, que cette première quête du Jésus de l'histoire s'est arrêtée après les études d'Albert Schweitzer et qu'on a travaillé un peu plus sur les évangiles pendant une cinquantaine d'années.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que la quête du Jésus de l'histoire s'est arrêtée?
Non, elle a repris. Même si les études sur les évangiles vont continuer, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Et oui, avec un disciple de Rudolf Bultmann, qui s'appelait Ernst Casemann, qui a relancé la recherche avec une affirmation que je partage pleinement, qui est, si vraiment on croit que Jésus est vrai Dieu, vrai homme, la foi chrétienne a besoin de continuer de s'intéresser à qui était Jésus, vrai homme, c'est-à-dire le Jésus historique.
Et pourquoi?
Parce que ça fait partie de la foi chrétienne. Sinon, on risque de ne s'en tenir qu'à une sorte d'image vaporeuse, je dirais, du ressuscité ou du Christ, et de renoncer à l'incarnation. Mm-hmm. Vous voyez?
Mm-hmm.
Casemann a raison. Il va dire en même temps, le 19e siècle nous a appris qu'on ne doit pas chercher à faire des vies de Jésus, des biographies de Jésus. On doit renoncer à un accès direct, mais même devant renoncer à cela, on doit continuer de chercher en deçà des évangiles. Qu'est-ce qu'on peut dire du Jésus de l'histoire? Mais cette fois, on le fera dans l'ordre de la plausibilité historique.
Oui.
Voyez-vous, au lieu d'essayer de faire un portrait sur lequel on met la main. Et ça a relancé la recherche sur le Jésus historique. Ça a produit de très bons ouvrages dont je mettrai des titres, Christine, sur
le site Internet de l'Institut de Pastoral.
Oui, sur la page qui parle des émissions de Radio Ville-Marie. Je mettrai là quelques titres d'ouvrages qui seraient trop longs de donner ici. Une des contributions les plus importantes de la deuxième quête, c'est d'avoir défini des critères. On a dit, OK, les évangiles ne sont pas des biographies, mais ne sont pas des mensonges. Ils sont construits à partir du Jésus historique. Alors, quels critères on pourrait appliquer sur les textes des évangiles pour pouvoir dire, ah oui, ça, Jésus a probablement dit quelque chose comme ça. Ça, vraisemblablement, c'est arrivé. Vous voyez?
Oui, ça, au fond, ça répond à notre besoin de sécurité, peut-être.
Exactement,
hein?
Exactement. Oui, c'est ça. Et ça y répondra jamais complètement, puisque là, on est, comme tous les autres historiens de l'Antiquité, réduits à des plausibilités, des degrés de plausibilité.
Oui.
Sauf qu'il y a plusieurs critères qui permettent d'arriver à des bons degrés de plausibilité.
Oui.
Bon, un exemple,
oui.
Un critère pour tous les historiens dans tous les domaines, c'est... Est-ce que telle information me vient de plusieurs sources différentes?
Oui.
Alors, disons qu'un officier romain demande à Jésus de guérir son serviteur ou son fils, selon l'évangile dans lequel on est. C'est dans Jean, c'est dans Luc et dans Matthieu.
Oui.
Et il n'y a pas de contact entre les évangiles de Jean, d'une part, et ceux de Matthieu, Marc, Luc, ou presque pas de contact.
Mm-hmm.
Et donc, on se dit, voilà, ça c'est... un événement qui nous est raconté dans deux sources vraiment différentes et il est raconté assez différemment. Il y a probablement derrière, il y a presque sûrement derrière un événement comme celui-là qui s'est produit dans la vie de Jésus.
Oui, c'est ce qu'on appelle le critère de multiplicité. Hein?
Oui, les sources multiples.
Les
exactement.
Sources multiples.
Voilà. Un autre critère qu'on va appliquer, c'est une sorte de critère, encore là, légitime pour tous les historiens, la cohérence du personnage.
Oui.
Par exemple, Jésus fréquente des gens et accueille des gens qui sont plutôt marginalisés, exclus ou méprisés.
Oui.
Et on trouve ça aussi bien dans Jean, où Jésus parle avec la Samaritaine, par exemple, que dans Luc, Matthieu, Marc, où Jésus mange avec des pécheurs. Dans Luc, Jésus a des femmes dans le groupe de disciples.
Oui.
Luc 8, 1 à 3 pour les femmes à l'écoute que ça intéresse. Jésus qui accueille les enfants alors que les disciples voudraient les renvoyer. Donc, il y a une sorte de constance dans l'attitude du personnage qui ne permettra jamais de dire à tel moment Jésus a parlé avec telle femme, mais qui permet de conclure de façon solide, oui, Jésus avait cette pratique d'accueillir les exclus, les marginalisés. Et ça, ça a dû se traduire dans toutes sortes d'événements de sa vie, dans ses attitudes générales.
Oui, donc, c'est un critère là, qui nous permet d'être un peu plus assurés oui. sur la véracité
oui,
des
voilà.
événements
de
ou
se
des paroles.
Dire, oui. oui, surtout quand on le retrouve en même temps chez Jean qui met toujours Jésus un peu sur un piédestal.
Oui, il y a la Alors, barre un peu plus haute.
Il y a la barre plus haute, c'est ça. Donc, oui.
Vous avez choisi de nous faire entendre une autre pièce de Jesus Christ Superstar. Alors, qu'est-ce que c'est?
Oui, je m'excuse, je l'ai fait entendre en anglais. Quand ça a été fait en film, ça a aussi été traduit en français.
Oui.
Mais je préfère personnellement la version anglaise. Alors, c'est « What's the buzz », on peut l'appeler comme ça. C'est les disciples qui se posent des questions sur Jésus et qui contestent le fait que Jésus accueille Marie-Madeleine, qui est considérée évidemment dans l'opéra rock comme une prostituée, mais ça, ça n'est pas dit dans les évangiles, mais c'est dans toute la tradition de l'Église.
Oui, oui. Uh-huh.
C'est cet extrait-là que j'ai choisi de vous faire entendre.
What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. It seems to me a strange thing, mystifying, that a man like you can waste his time on women of her kind. Yes, I can understand that she amuses, but to let her stroke you, kiss your head, is hardly in your line. It's not that I object to her profession, but she doesn't fit in well with what you teach and say. It doesn't help us if you're inconsistent. They only need a small excuse to put us all away.
Nous reprenons cette entrevue avec Francine Robert de l'Institut de pastoral des Dominicains. On était rendu à la deuxième quête de Jésus de l'histoire sur les critères là, pour essayer de démêler ce qui est réellement historique.
Oui. Un autre critère qui est intéressant puis qui va peut-être surprendre les gens, c'est est-ce que c'est un embarras pour
oui.
les chrétiens? Il ne faut pas oublier que les évangiles sont écrits par des chrétiens. Je vais reprendre votre histoire d'embellir. Hein.
Oui, oui.
S'ils avaient voulu embellir systématiquement, en tout cas, ils auraient évité de mentionner que Jésus est baptisé par Jean le Baptiste.
Oui, parce que c'est embêtant, cette histoire de baptême pour le,
ben,
pour
oui.
le pardon des péchés.
Ben, c'est
alors
ça.
Que on dit que Jésus...
C'est le Fils de Dieu.
C'est le Fils de Dieu, ah, n'a pas faut, péché.
C'est ça, les évangiles sont écrits par des gens persuadés que Jésus est le Fils de Dieu.
Oui, oui.
Alors, qu'est-ce qu'il s'en va faire à se faire baptiser par Jean-Baptiste?
Oui.
Donc, on aurait pu laisser tomber. Alors, ça, c'est un bon critère, ce qui est un peu embarrassant. Jésus annonce que le Fils de l'homme revient, que le règne de Dieu arrive, mais il dit qu'il ne sait pas quand.
Oui.
Ben là,
oui.
vous voyez, s'il est le Fils de Dieu puis qu'il sait tout, il devrait
oui.
le savoir. Comment ça se fait qu'on nous dit ça dans les évangiles? Donc, il y a un fond historique, là.
Donc, on se dit, c'est qu'il l'a probablement dit.
Oui, parce que oui. pourquoi les chrétiens auraient-ils inventé un oui. truc pareil?
Mm-hmm.
Hein?
Mm-hmm.
Que Jésus est crucifié, ça, c'est sûr. C'est le scandale oui. par excellence. Mm-hmm. C'est même un obstacle à la prédication chrétienne au début.
Oui, parce qu'on cachait le fait que...
Oui, c'est-à-dire qu'on aimait mieux ne pas en parler, en tout
c'est
cas. C'était un problème. Alors, évidemment, on n'invente pas une chose pareille.
Oui.
Donc, vous voyez, on a chez Marc le récit de Jésus qui doit s'y prendre à deux fois pour guérir un aveugle. Hein.
Oui.
Récit très peu
oui,
connu.
Oui.
Pas
uh-huh.
utilisé les dimanches,
non.
évidemment. Marc au chapitre 8. Ben ça aussi, ça s'invente pas, là. Si, est-ce quoi, cette journée-là, il était moins en forme? Ou... Donc, vous voyez, et ça dit deux choses, ce critère, je trouve. Ça dit ce à quoi c'est censé servir. C'est-à-dire que, oui, là, on a des éléments qui remontent à l'expérience historique de Jésus. Mais ça dit aussi que les évangiles sont honnêtes.
Oui.
En gardant des traits comme ceux-là, dont on pourrait facilement se passer si on voulait à tout prix écrire une espèce d'apologie super élogieuse.
Oui, voyez, oui, oui. On aurait épuré le texte de tous ces embarras et
exactement.
De ces contradictions parfois.
Et... Donc, c'est intéressant. Il y a une fiabilité là des évangiles, d'une part. Ça montre aussi que beaucoup moins que nous, les évangélistes, n'avaient de problème avec l'incarnation. Pour eux, Jésus est un homme réel. Hein, ce qu'ils veulent, c'est montrer ce à quoi ils croient, que cet homme réel est fils de Dieu. Mm-hmm. Nous, on a collé au fils de Dieu et puis on travaille depuis 200 ans à retrouver l'homme réel.
Oui,
c'est ça.
C'est ça.
Donc, cette deuxième étape-là de la recherche sur le Jésus historique, Christine, elle a été très féconde. Elle nous marque encore beaucoup tout le monde. Et elle a un effet aussi... que je déplore, moi, et qui va être rééquilibré, je dirais, par la recherche actuelle, c'est qu'elle a cherché à mettre beaucoup en avant l'originalité de Jésus.
Oui, c'est-à-dire?
Ben, comment il se démarque par rapport au judaïsme de son temps.
Ah oui.
Ah, oui. Et par exemple, un des critères pour dire est-ce que Jésus a prononcé cette parole-là, c'est est-ce qu'un juif ou un rabbin de l'époque aurait pu dire ça? Non, donc il doit l'avoir dite.
Oui.
Ce qui est un bon critère,
et
je les simplifie trop là, hein. Je fais mes excuses aux spécialistes à l'écoute, on simplifie beaucoup les complexités de toute cette recherche
scientifique. Oui, c'est ça, mais on dira à la fin de l'émission que les gens intéressés par toutes ces questions-là pourront suivre votre cours.
Et lire les scientifiques aussi,
exactement.
Les très bonnes publications.
Exactement.
Mais en mettant l'accent comme ça sur en quoi Jésus se démarque-t-il du judaïsme, ça a conduit bien involontairement et inconsciemment en bonne partie à présenter une sorte d'image du judaïsme du premier siècle très rigide. Et cette image-là, elle est restée chez beaucoup de gens, croyants ou non, qui lisent la vulgarisation scientifique. Vous savez, cette espèce de caricature du pharisien tatillon qui veut suivre tout de la loi de Moïse, cette espèce d'obsession de ne pas la transgresser. Un judaïsme très monolithique et rigide. Et là, plus on le met rigide, plus on a la belle image de Jésus qui est le champion d'une religion du cœur, d'une religion de la compassion. Et puis, peu importe la loi du sabbat, vous voyez bien, lui est malade, il faut le soigner.
Mais c'est pas un peu comme ça quand même qu'on nous le présente dans les évangiles. Il se met en colère contre les autorités religieuses. Il s'en prend à tous ceux qui veulent avoir du pouvoir sur les petits. C'est pas pour rien qu'on a cette image-là.
Ça reste vrai, effectivement. Mais ce serait dans le monde actuel, chrétien, non chrétien, que ce sera encore vrai. C'est-à-dire que ceux qui dominent veulent toujours avoir le pouvoir sur les petits. Alors que les affrontements dont vous parlez avec les chefs religieux, disons à propos de la loi de Moïse, c'est vrai qu'ils sont dans les évangiles, mais pas autant que ce que nous y mettons. Au fond, on lit comme tout. On lit à partir de ce qu'on pense déjà, toujours. Voyez, chez Luc, Jésus va souvent manger chez les pharisiens.
Okay.
Les gens sont surpris. Quand, ah oui, Jésus allait manger chez les pharisiens. Donc, les pharisiens l'invitaient. Ben oui, les pharisiens l'invitaient. Et beaucoup de pharisiens étaient intéressés par lui. C'est pour ça que, si je peux me permettre de le dire comme ça, il les a tout le temps dans les jambes.
Ouais.
Voyez, c'est qu'ils sont attirés par lui.
Mais c'est vrai qu'on n'a jamais souligné cet aspect-là dans les évangiles.
Et ça s'explique parce qu'on a beaucoup, beaucoup utilisé l'évangile de Matthieu dans l'Église. Ouais. Et on est beaucoup, sans le savoir, je dirais, formaté à la manière de Matthieu. Or, c'est pas une émission sur les évangiles, je dois pas trop développer, mais Matthieu écrit pour des Juifs devenus chrétiens, et pour eux, la rupture avec le judaïsme, elle est extrêmement douloureuse à vivre. Et il est convaincu que si le leadership pharisien de son époque avait reconnu Jésus comme Messie, tout le peuple juif aurait pu suivre. Et donc, les conflits que les chrétiens vivent avec les pharisiens, ils sont réinjectés dans la manière dont Matthieu raconte les tensions entre Jésus et les pharisiens de son époque. Mm-hmm. C'est la même chose dans l'évangile de Jean. Les conflits sont exacerbés, je dirais. Je ne dis pas, attention, que Jésus n'en a pas eu de conflit. Hein. Mais vous savez, par exemple, je reviens sur le sabbat et guérir ou non. Les gens ont l'impression que, ben oui, c'est la loi de Moïse, donc il ne faut pas guérir, donc tant pis. Mais on sait, on réétudie, depuis, je dirais, les années 80-90, on réétudie autrement une documentation qui était déjà disponible. Vous savez, c'est comme dans toutes les sciences, Christine. Les sciences avancent quand on se met à poser les questions autrement, et non pas parce qu'on a découvert un nouvel objet à étudier. Alors, aujourd'hui, on se pose des questions autrement sur la documentation rabbinique, entre autres, et on voit à quel point le judaïsme de l'époque, il était pluriel, très diversifié. Tous les débats étaient ouverts et Jésus rentre très bien dans ce décor-là. Il est lui aussi quelqu'un qui débat sur la loi, qui remet en question des choses et personne n'a été mis à mort pour ça. Vous voyez? Alors, oui, est-ce que c'est permis de guérir le jour du sabbat? Ben, il y en a qui disaient non, d'autres disaient que ça dépend de la gravité et de l'urgence. C'est le gros bon sens. Ce qui est intéressant pour nous, je dirais, et les résultats sont encore prometteurs et à venir, c'est que ça nous permet de replacer Jésus dans une spécificité plus universelle. Au lieu de dire « il est original parce que lui est libre face à la loi de Moïse », ça nous oblige à dire « alors, comment est-ce qu'il relativise toutes les lois religieuses ?» Si on arrête de caricaturer la loi de Moïse et ceux qui la respectent, on est renvoyé à « qu'est-ce que Jésus remet en question dans le fait qu'il y a des bonnes lois religieuses et que c'est bien de les respecter ?» Ça va plus loin. Alors, c'est plus « est-ce que la loi de Dieu me permet de guérir le jour du sabbat ?» C'est « mais qu'est-ce que c'est le jour du sabbat qu'on doit faire ? C'est rendre gloire à Dieu ? Ben, si rendre gloire à Dieu, c'est m'occuper du mal pris. »
Ben
voilà.
Alors, je m'occupe du mal pris.
C'est ça. Vous voyez, si on se met à comprendre autrement la loi de Moïse et à la respecter, du coup, on est obligé d'interpréter autrement l'attitude de Jésus. Et là, ça rejoint tout le monde parce que ça rejoint toutes les lois religieuses. Dès qu'on cesse de le caricaturer celle-là, ben, les nôtres aussi sont bonnes. Mais à quel moment la priorité, je dirais, de l'autre et de la compassion de Dieu pour l'autre doit prendre le pas sur toute loi. Et là, ça devient interpellant, je trouve, et dérangeant, voyez.
Oui, oui. Si vous me permettez, Francine, on peut revenir, ou en tout cas, je ne sais pas si je peux dire revenir à cette quête de Jésus de l'histoire, parce qu'on était dans la deuxième.
Oui, on était dans la deuxième, et ce dont je viens de parler, je dirais, c'est une réaction des scientifiques qui redécouvrent la judaïté de Jésus, qui le remettent dans ses racines juives. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que certains appellent la troisième quête.
La troisième,
qui est comme une réaction à la deuxième, à un abus, je dirais, inconscient et involontaire de la deuxième quête. Et c'est là-dedans qu'on est actuellement. Donc, redécouvrir la judaïté de Jésus, sachant bien que de lui redonner sa judaïté, ça n'enlève pas la portée universelle de ce qu'il a à dire.
Non.
Tout comme on ne doit pas sortir Gandhi de son monde pour reconnaître l'universalité de ce qu'il a à dire.
Exactement.
Au contraire, il faut le comprendre dans son monde pour aller chercher à quel point ça nous rejoint. C'est un peu la même chose. Mais ça aussi, ça agace certains chrétiens de dire « oui, mais à ce compte-là, est-ce que Jésus était ouvert aux païens aussi pour ça? » Il y a une dernière chose, Christine, que j'aimerais dire et qui n'est pas assez présente dans la quête que les gens ont, pas les scientifiques, mais les gens en général et les croyants en particulier. Une des caractéristiques majeures du judaïsme au temps de Jésus, c'est d'être monothéiste. On oublie tout le temps ça. C'était très original dans le monde gréco-romain de l'époque. Et c'est à la base de la foi chrétienne, ce monothéisme. Et donc, Jésus prêche à des gens qui croient au Dieu de tous les hommes. Alors, cette espèce de vision qu'on a d'un judaïsme frileux, vous voyez, faut pas perdre ça de vue. Jésus n'est pas vraiment compréhensible en dehors de ses racines dans ce monde-là et dans cette foi juive-là. Et c'est pourquoi l'Ancien Testament, d'ailleurs, fait partie de la Bible chrétienne.
Oui.
Et que ça serait bien de faire quelque chose sur l'Ancien Testament, mais on va pas se lancer.
Bon. Alors, nous allons à une autre pause musicale, Francine.
Eh oui, on veut voir des miracles, on veut des preuves. Hérode en voulait aussi. C'est à peine deux lignes dans l'Évangile de Luc. Pilate envoie Jésus chez Hérode. Ça donne une pièce qui montre à quel point, quand on veut voir des miracles, au fond, ce qu'on veut, c'est un bon show.
Jesus, I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples, raising
rising from the dead. And now I understand you're God. At least that's what you've said.
So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine, that's all you need to. And I'll know it's all true. Come on, King of the Jews. Jesus, you just won't believe the hit you've made round here. You are all we talk about, the wonder of the year. Oh, what a pity if it's all a lie. Still, I'm sure that you can rock the cynics if you try. So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. If you do that for me, then I'll let you go free. Come on, King of the Jews. Skinny superstar, what is it that you have got that puts you where you are? I am waiting, yes, I'm a captive fan. I'm dying to be shown that you are not just any man. So if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, feed my household with his bread. You can do it on your head. Or has something gone wrong? Why do you take so long? Come on, King of the Jews. Hey, aren't you scared of me, Christ? Mr. Wonderful Christ. You're a joke, you're not the Lord. You're nothing but a fraud. Take him away, he's got nothing to say. Get out, you King of the... Get out! Get out, you King of the Jews! Get out, you King of the Jews! Get out of my life!
Nous reprenons cette entrevue avec Francine Robert de l'Institut de pastoral des Dominicains. Nous avons parlé longuement, Francine, de la figure historique de Jésus dans cette émission. Est-ce qu'il y a des dangers à ne s'intéresser qu'à la figure historique de Jésus de Nazareth?
Oui, certainement, Christine. Je dirais pour les incroyants, d'une certaine manière, même, il y a un certain positivisme hein, qui dit « Moi, je me fonde juste sur ce qui peut être prouvé. » Alors, si des gens fonctionnent comme ça, ils vont être très déçus.
Oui.
Hein? Parce que la recherche scientifique pourra prouver que Jésus existait, ça c'est sûr. Elle peut prouver un certain nombre de traits dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont une plausibilité très élevée, mais ça va être tout.
Mm-hmm. Hein?
Ça, c'est pour la recherche non-croyante. Pour les croyants, le danger, c'est de se priver d'une source fondamentale d'éclairage sur l'événement Jésus, que sont les évangiles. On ne peut pas que démolir les évangiles pour trouver l'événement historique derrière. Là, on vient de perdre une énorme richesse. Il faut faire la distinction, au fond, entre le savoir et le croire, si
oui.
Je peux me permettre.
Hein. Ah, oui, alors qu'est-ce que vous entendez par ces deux termes-là?
Je dirais que l'histoire, comme science, peut bien me prouver que Jésus a guéri un aveugle ou que Jésus a dit telle phrase. Et après, non, là, je dirais, on peut me prouver aussi qu'Aristote a écrit telle chose et que Socrate, on ne peut pas le prouver, mais on pense qu'il a dit telle chose.
Mm-hmm.
On doit se fier à Platon. Il faut toujours se fier à quelqu'un pour les personnages de l'Antiquité. Mais après, ça change quoi dans ma vie qu'on me prouve que Jésus a guéri un aveugle, vous voyez? Donc, il y a du savoir qui m'est donné. Et puis après, je dois décider qu'est-ce que je fais de ce savoir-là. Et est-ce que je lui donne un sens? Et est-ce que cette information sur le personnage a une signification pour moi? Est-ce que ça rejoint ma vie? Est-ce que ça peut être source de sens à ma vie? Vous voyez, information et signification, c'est pas la même chose.
Oui.
Alors, savoir et croire, c'est la même différence. J'ai des informations. Encore me reste-t-il à décider quelle signification j'attribue à cela. Et là, on est comme happé, je dirais, dans le mouvement des évangiles. Les évangiles ont pris position et ils disent, voici à partir de notre expérience comment nous comprenons, quelles sont les significations. Et ils m'interpellent à mon tour à dire, est-ce que cette parole-là, par exemple, « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent mm-hmm. », est-ce que c'est une parole que je trouve intelligente, intéressante, ou est-ce que c'est une parole sur laquelle j'ai envie de construire quelque chose qui fonde ma vie?
Oui.
Vous voyez? Là, c'est mon choix. Il n'y a aucun historien qui peut jamais décider ça. On peut juste me prouver que Jésus a dit ça. Mm-hmm. Et après?
Mm. Oui. Au fond, si je vous comprends bien, Francine, on doit refaire le travail qu'ont fait les évangélistes.
Oui, je dirais tout à fait, oui. On est renvoyés nous-mêmes à prendre position. Les évangélistes ont essayé d'exprimer sous certains angles ce que Jésus représentait pour eux et on est obligé de faire la même chose d'une certaine manière en les utilisant, les quatre évangiles, mais aussi à partir de là où on a les pieds aujourd'hui et à partir des questions qui nous intéressent aujourd'hui. Mais je peux bien dire, OK, Jésus, il a parlé de Dieu. Et puis, ouais, c'est intéressant, ça donne à penser. Et je peux dire aussi, finalement, ce que Jésus dit de Dieu, moi, je crois que c'est vrai.
Ah oui.
Et donc, j'appelle Jésus l'envoyé de Dieu ou le Fils de Dieu ou le Messie. Là, je me situe au niveau du croire. Cela restera toujours l'objet d'une expérience du côté du croyant et jamais du côté de l'historien. Vous voyez?
Oui,
et donc, on est dans le croire, on n'est pas dans le savoir.
Oui, on est dans le croire et donc dans tout un travail, je dirais, à faire,
oui.
Chacun de son côté.
Chacun de son côté.
Quand on est croyant.
Et ensemble aussi, on le fait,
évidemment,
en communauté. Et donc, il y a des historiens croyants et des historiens non-croyants qui s'intéressent à Jésus. Et il y a des ouvrages publiés par des croyants juifs sur le personnage de Jésus.
Ah, c'est vrai, hein?
J'en mettrai aussi un titre ou deux.
Oui.
Et c'est éclairant. Mais ça ne veut surtout pas dire que croire et savoir s'opposent. Ça
c'est complémentaire. En fait.
Voilà.
Oui.
Et que je ne suis plus obligé, disons comme au 19e siècle, j'étais un peu contraint par l'institution de dire ou bien je crois et je ne veux rien savoir de ce que les rationalistes disent de Jésus, ou bien je m'intéresse uniquement à l'histoire et tous ceux qui croient son nono, vous voyez. Aujourd'hui, ça peut être plus nuancé. Je peux prendre appui sur ce que je sais, donc ce qui relève du savoir, mais je dois décider ce que je fais avec ça. Et ça, ça relève du croire, sans les opposer. Et à ce titre-là, c'est intéressant de voir que la recherche scientifique et l'intelligence de la foi peut nourrir le croire, peut l'appuyer, je dirais.
Vous avez écrit, Francine Robert, un excellent texte dans « Prêtre et pasteur » où vous parlez du grand apport du Concile Vatican II concernant le Jésus de l'histoire. Pouvez-vous nous en parler un peu?
Oui, la redécouverte à l'occasion du Concile Vatican II de l'importance de l'incarnation, qui intéresse tellement de gens aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme, la réalité de l'homme Jésus, ça a été réaffirmé effectivement clairement dans l'encyclique Gaudium et Spes. Comment Jésus appartient à l'histoire humaine et vit en solidarité avec l'histoire humaine et doit apprendre des choses, doit cheminer aussi. Ça, je dirais, ça a libéré un peu aussi la recherche et ça a enlevé une certaine inquiétude chez beaucoup de croyants qui s'intéressent justement à l'humanité de Jésus. Il y a aussi un excellent texte des évêques du Canada dont je mettrai la référence. Donc, au fond, il y a une constante, Christine, qu'on parle du 19e siècle, du 20e siècle, qu'on parle des chercheurs ou des gens en général, qu'on parle des croyants ou des non-croyants, on recherche l'humanité de Jésus. Hein? C'est une vraie constante. Et si vous me permettez, je reviendrai au film et au roman. J'aime ça, je le redis.
Oui.
Hein? Contrairement à beaucoup de spécialistes et contrairement à beaucoup de prêtres et d'agents de pastorale qui sont toujours déçus que les films ne soient pas fidèles aux évangiles. Mais les films ne sont pas des évangiles, ce ne sont que des films.
Oui.
Mais ça fait du bien d'avoir des images.
Oui.
Ça fait du bien de voir un Jésus habité, qui bouge, un corps. Là-dessus, je signalerais le film de Arcan, Jésus de Montréal, où enfin, on n'avait pas un Jésus athlète, Hein? Oui. Lothaire, plutôt, le comédien, il est plutôt petit.
Oui.
Je pense que dans l'Évangile de Marc, si on avait à faire un film à partir de Marc, c'est cette stature-là de Jésus. Vous voyez que je donnerais.
Oui, puis on l'a beaucoup aimé parce que en fait, ça rejoint, vous savez, cette façon de voir Dieu fragile, fragilité
exact.
De Dieu.
Oui, et on redécouvre l'Évangile de Marc à cause de cette sensibilité-là qui est très contemporaine.
Exactement.
Je dirais aussi que les films et les romans donnent de la chair aux autres personnages.
Oui.
Et ça, c'est important parce que à qui on peut s'identifier quand on lit les évangiles, sinon aux autres personnages. Et je me rappelle le roman de Burgess, et c'est un roman, qui dit que les disciples, enfin ceux qui sont pas pêcheurs de métier, ont le mal de mer pendant la tempête. Hein? Ben oui, voyez, c'est concret. Je vous accorde que ça ajoute pas grand-chose à la profondeur du message, là,
hein? Oui.
Mais ça me permet de retrouver des gens normaux. Avec Jésus. Je me considère comme quelqu'un normal et voyez, du coup, je peux me projeter dans le groupe. C'est à ça que ça sert, les bons films et les bons romans. Ce que j'aimerais, c'est deux choses. Qu'il se fasse un jour un film sur un évangile et non pas une sorte de mix des quatre,
oui.
Comme Zeffirelli, qui est bon, là, vous savez, le fameux film qui dure 6 heures, qui repasse à Pâques à chaque année. Là.
Jésus de Nazareth.
Jésus de Nazareth de Zeffirelli, c'est ça. Ça, je trouve que ça manque. Et là, on aurait vraiment, si on faisait un film à partir d'un évangile, on aurait vraiment la couleur particulière de cet évangile. La deuxième chose que je déplore, c'est que il y a des publications qui sont en réalité des romans et qui se présentent comme des publications scientifiques.
Est-ce que vous pensez au Da Vinci Code, par exemple?
Non, pas du tout.
Ça
se présentait bien comme un roman.
Comme un roman.
Non, je pense à Gérard Messadier. L'homme qui devint Dieu.
Ah oui, oui, OK.
Qui a été un gros succès en 88 et qui a continué, lui. Il s'est rendu compte que Jésus est un bon vendeur. C'est du bon roman. Mais ça se prétend un ouvrage historique, alors que c'est bourré d'erreurs, même pas théologiques, là, d'erreurs historiques, point. Ça, je trouve ça un peu dommage. Et je comprends à ce moment-là la perplexité de beaucoup de gens qui nous écoutent et qui vont dans les librairies et qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils pourraient bien lire pour ne pas se faire charrier, ne pas se faire amener dans des cul-de-sac, je dirais, et en même temps, ne pas se retrouver avec des livres tellement savants qu'on ne comprend rien. C'est vrai que ça n'est pas facile, mais je préfère une situation comme celle-là à une situation où rien ne s'écrirait et rien ne se dirait sur Jésus de Nazareth. C'est une bonne chose qu'on continue d'en parler, je pense.
Ben, écoutez, Francine Robert, merci beaucoup pour votre participation à cette émission sur le Jésus de l'histoire. Je pense que vous nous avez aidé à démêler le vrai du faux. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir, Christine.
Je remercie notre invitée, Francine Robert, pour son travail de coordination à cette série d'émissions « Croire d'hier à demain », réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal pour Radio Ville-Marie. C'est Christine Cossette au microphone. Je vous laisse donc sur une pièce de Jesus Christ Superstar et je vous espère la semaine prochaine. Au revoir.